Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Il est 8h08, c'est RMC, c'est le week-end des experts et évidemment, vous le savez, on est là jusqu'à 10h. Tout à l'heure avec Raphaël Grabli, entre 9h et 10h, on va parler des nouveaux smartphones. Vous savez qu'Apple a annoncé il y a quelques jours ses nouveaux iPhone 12. Alors, faut-il craquer? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ces iPhone 12 par rapport aux précédents modèles? Et surtout par rapport à la concurrence, parce que la concurrence vraiment est très dynamique. Hein. Samsung, évidemment, Google aussi avec ses téléphones. Il y a beaucoup de choix aujourd'hui. Comment choisir son smartphone en cette fin d'année à l'occasion de la sortie des iPhones? On en parlera avec Raphaël et Nicolas Leloup, journaliste à 01net, qui sera avec nous. Mais dans l'immédiat et jusqu'à 9h, c'est notre médecin préféré, Christian Recchia. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous pour une petite série de sujets qui vont de toute façon devoir vous intéresser, car nous allons parler de la vaccination.
De la vaccination, ça va être dans un instant. Et puis, juste après, ce que j'ai dans mon petit verre, mon cher
Christian.
Ah oui,
le café.
Le café.
Le café avec M. Courty, qui va nous expliquer d'où vient son café. Et puis surtout, la santé et le café, vous allez voir, c'est pas si simple. Il va falloir comprendre que le café est très bien pour la santé, mais il y a des personnes qui vont devoir faire attention.
Mais est-ce que le café est bon pour la santé?
Oui.
Comment faut-il consommer le café? Tiens, est-ce que c'est mieux le café filtre, le café expresso? Est-ce que quels sont les meilleurs cafés? Parce qu'on sait qu'il y a évidemment des milliers de sortes de cafés. Hein.
Ah oui. Il y a autant de cafés qu'il y a de machines et autant de café qu'il y a de granulation.
Tout à fait. Et puis les vertus du café. Hein. Ça sera tout à l'heure. Et si vous avez des questions sur le café, tiens, est-ce que vous êtes un gros consommateur de café? Est-ce que le café empêche de dormir, Christian? C'est un petit peu l'image qu'on a hein, du café. Eh bien, si vous avez des questions spécifiques sur le café dès maintenant, 3216, l'appli RMC, Direct Studio. À tout moment, vous pouvez nous joindre, bien sûr. On commence par le coup de cœur. Non, pas le coup de cœur, mais l'ordonnance de Christian.
Oui, c'est plus qu'un coup de cœur. C'est une nécessité d'intégrer cette émission-là, ce thème, en ce moment.
Eh bien voilà, c'est parti pour l'ordonnance. On va parler de vaccinage tout de suite.
Et quoi de neuf, docteur?
RMC.
Manger sain, manger frais, manger
des pommes.
L'ordonnance de Christian Recchia.
Et oui Christian, notre ordonnance aujourd'hui, c'est bien un sujet d'actualité parce que ça y est, les vaccins contre la grippe sont là. Et effectivement, comme chaque année, peut-être encore plus cette année avec évidemment cette épidémie de Covid, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je dois me faire vacciner contre la grippe?
Alors, tout d'abord, nous sommes dans une situation Covid extrêmement compliquée. Je défie tous les chefs d'État du monde de trouver une solution. Donc, ce n'est que de l'humilité qu'il faut avoir face à notre gouvernement.
Bien sûr, c'est vrai que là...
Et c'est très compliqué, ce qui signifie que les 4 semaines qui nous sont imposées avec un couvre-feu...
De 21h à 6h.
Il faut les appliquer. Mm-hmm. Et je dirais qu'il faut les appliquer sans doute sur beaucoup plus de territoires qui ont été définis. Donc ça, je serais encore plus sévère parce que je ne voudrais pas qu'à partir de fin novembre, nous soyons obligés de reconfiner par absence de lits de réanimation, par absence de moyens médicaux, par absence de capacité du monde médical qui a été merveilleux jusqu'à présent d'être en mesure de se battre contre cette pathologie.
Christian, juste un mot, on attend un pic fin novembre, à votre avis ?
On attend un pic, oui, fin novembre. On attend surtout maintenant une résorption, une involution du nombre de cas qu'on ne voit pas arriver, malheureusement, que nous ne voyons pas arriver.
D'où ce couvre-feu, justement,
d'où ce couvre-feu,
pour l'accélérer.
Dans les villes où il y a eu un couvre-feu appliqué, cela a fonctionné. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Mais là où j'ai des doutes, c'est est-ce que ce sont les restaurants qu'il faut viser? Est-ce que ce sont les salles de spectacle qu'il faut viser? Est-ce qu'il ne faut pas viser d'autres moyens dans la société, c'est-à-dire peut-être les transports? Dans une immense ville comme Paris et l'Île-de-France...
Oui, mais les masques sont obligatoires dans les transports.
Oui, mais il n'y a pas que les masques. C'est-à-dire qu'en fait, les masques ne sont pas forcément ceux qui sont réalisés et donnés à tous et toutes, ne sont pas forcément hyper efficaces.
Oui, mais c'est mieux que rien.
C'est mieux que rien, mais quand on est à 40 cm dans un métro d'une personne qui a un masque, eh bien, je dirais que l'ambiance, le placement aérien, on l'a vu avec Jean-Luc Moreau, eh bien, c'est pas forcément évident. Donc, voilà, il faut appliquer. Et dans ce cadre-là, il ne faudrait pas qu'en décembre, janvier, notamment en janvier, quand la grippe classique arrive, il ne faudrait pas que la population soit grippée en plus d'être covidé, et ça veut dire qu'il, pour, d'abord pour le diagnostic c'est compliqué, ensuite il y aurait une population affaiblie par la grippe qui pourrait être, je dirais, encore plus attaquée sur le plan physiologique par le Covid. Donc je vous demande.
On peut avoir les deux.
On peut avoir en même temps les deux, la grippe plus le Covid. On peut avoir les complications d'une grippe compliquée par le Covid. Et là nous parlons de qui ? Nous parlons des personnes fragiles. Donc là je m'adresse aux parents. Mesdames et messieurs, vaccinez vos enfants, s'il vous plaît. Ça, c'est un élément nouveau, car je suis tout à fait étonné de constater autour de moi que les médecins ne prescrivent pas de vaccins pour les enfants. Et alors que c'est nécessaire, je vous signale que chaque année, nous perdons des vies parmi les adolescents et les enfants. Alors, pas beaucoup, mais c'est de toute façon trop, même au-delà d'une, c'est trop. Donc ça veut dire clairement qu'il est nécessaire de vacciner les enfants. Évidemment, les personnes âgées de plus de 50 ans, s'il vous plaît, la vaccination est obligatoire. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les pharmaciens, d'une façon générale, eh bien, cette semaine, se sont vus, je dirais, pris d'assaut sur ce plan.
Thomas, justement, est pharmacien, il veut témoigner ce matin. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour, merci de nous donner la parole.
Bonjour, bah, écoutez, en plus, c'est bien que vous soyez là pour nous dire
les choses. Christian vous a bien introduit, si je puis
voilà,
me permettre,
exactement,
Thomas. Vous êtes à Toulouse, hein, c'est ça ?
Oui, je suis pharmacien dans le Tarn, plus exactement.
Alors, bonjour docteur.
Voilà.
Vous avez assisté à quoi cette semaine, Thomas ?
Alors en fait, on va dire grâce aux médias, on a assisté à un véritable engouement pour la vaccination. Donc ça, on ne va pas s'en plaindre, c'est très bien que tout le monde se fasse vacciner, c'est parfait. Simplement, si on ne veut pas que ça parte en saucisse, il faut quand même que les gens qui nous écoutent comprennent le mode d'approvisionnement des vaccins. Chaque pharmacien, et autour de moi mes collègues ne diront pas le contraire, on a prévu un stock suffisamment important pour faire face justement à ce nouvel engouement qu'on avait anticipé. Simplement, les laboratoires nous livrent en plusieurs parties. Donc, c'est facile à comprendre. Si tout le monde se précipite chez son pharmacien pour se faire vacciner ou pour récupérer son vaccin, ça fait comme pour l'essence quand on dit qu'il va y avoir risque de pénurie, ben la pénurie arrive. Ce qui est le cas à l'heure actuelle dans mon officine. Nous avons vendu en 2 jours ce que nous avons vendu l'année dernière en 1 mois.
D'accord. Ah oui.
Voilà. Ça, alors c'est... que, comme l'a dit le docteur Ekia, ce qui est très important de comprendre, et je pense qu'il n'ira pas dans l'autre sens, c'est qu'il est inutile, sauf cas vraiment très particulier, de se faire vacciner maintenant, car la grippe arrive généralement en décembre. Donc, une vaccination début novembre ou mi-novembre est largement suffisante pour acquérir l'immunité.
Donc, et on n'est pas obligé de se...
Il faut 3 semaines pour acquérir l'immunité.
Il ne faut pas se précipiter, Thomas, c'est ça, en fait.
C'est-à-dire que, de toute façon, maintenant, vous pouvez vous précipiter chez votre pharmacien, sauf vraiment cas particulier.
Oui.
Il n'en aura pas en stock. Il attendra la prochaine livraison qui arrivera dans une quinzaine de jours ou courant du mois de novembre.
Mmh.
Mais ce que je conseille aux patients, c'est d'aller quand même chez son pharmacien pour aller se faire inscrire éventuellement sur une patente ou autre pour réserver ce vaccin, car les laboratoires nous ont promis que nous les aurions et en quantité suffisante. Donc, enfin, ce qui me concerne, et je pense que c'est la majeure partie de mes collègues, il n'y a aucun souci en termes de quantité livrée. Simplement, la personne se présente vers la pharmacie, se fait inscrire sur liste d'attente et aura son vaccin courant du mois de novembre, ce qui est largement suffisant.
Magnifique, magnifique. On ne peut pas être plus précis, car évidemment, ce n'est pas le manque de vaccins qui va être gênant, c'est le flux. Et attention, il faut aussi quand même préciser, docteur, c'est que au-delà du mois de décembre, la vaccination est compliquée, parce que si la grippe arrive en décembre, on n'aura pas été vacciné, même si on a fait le vaccin début décembre.
Christian,
il faut quand même se vacciner courant novembre.
On est protégé
Il faut se faire vacciner quand nous sommes en forme. C'est important.
On est protégé combien de temps après être vacciné ?
Il faut 3 semaines à l'économie, à l'organisme, l'économie humaine pour pouvoir s'organiser et construire des anticorps contre le vaccin et contre la grippe. La vaccination dure l'année parce que malheureusement le virus change l'année.
Il faut malgré tout 3 semaines pour se protéger après la vaccination.
Il faut pas se vacciner au-delà du du 30 novembre, ce qui veut dire que vous avez encore un mois et demi pour pouvoir organiser votre vaccination. Et comme le dit notre pharmacien, c'est de commander votre vaccin, se mettre sur liste d'attente et vous faire la vaccination. Docteur, vous êtes encore là ? Vous pouvez vacciner vos patients dans votre officine, c'est autorisé.
Alors, on peut vacciner les personnes qui sont prioritaires, donc celles qui ont un bon de l'assurance maladie, qui est fournie par l'assurance maladie en fonction de l'âge, de la pathologie ou autre, pour vacciner aussi les femmes enceintes. Enfin, voilà, donc il y a quelques cas. Effectivement, on en fait beaucoup. C'est un réel engouement au niveau de la pharmacie, oui.
Laurent qui nous dit « Je voulais me faire vacciner, je me suis fait refouler à la pharmacie, il me fallait une ordonnance. »
Non, il faut le bon. L'ordonnance ne suffit pas. On ne vaccine pas les personnes qui ont une ordonnance. On vaccine les personnes qui sont dites prioritaires et qui souhaitent, encore une fois, se faire vacciner par la pharmacienne, parce qu'ils ont la possibilité de le faire faire par l'infirmière, par le médecin au cours d'une consultation classique. Enfin, il y a plein de moyens de se faire vacciner. Il faut que ce soit simple.
D'accord. Mais on est d'accord que pour récupérer la dose, il faut une ordonnance. Thomas.
Non, on peut l'acheter. Alors, on peut l'acheter en libre accès, ça, c'est pas un problème. Simplement, à l'heure actuelle, sont prioritaires au niveau de l'achat et de la récupération du vaccin les personnes qui ont des bons, étant donné qu'il y a ce léger phénomène de pénurie, mais ce n'est pas le terme, c'est juste un afflux important, trop important, qui va se réguler dans les 15 jours, 3 semaines à venir.
Ce sont les personnes prioritaires, on va dire, c'est normal, si elles ont des bons, voilà, elles passent en priorité.
Dans tous les cas, si vous avez plus de 50 ans, il faut se vacciner. Dans tous les cas, si vous avez des enfants de moins de 20 ans, surtout, il faut vacciner vos enfants, s'il vous plaît. Encore une fois, il n'y a pas une erreur du monde médical, surtout pas, mais il y a un manque d'information sur ce sujet, parce que les parents sont tout à fait étonnés qu'il soit nécessaire de vacciner les enfants. Et ça, c'est tout à fait dommage de devoir dire ça encore aujourd'hui, 40 ans après le vaccin.
Ce qu'il faut retenir, c'est que vous conseillez, Christian, de se faire vacciner. On n'est pas obligé
de se faire conseiller.
On n'est pas obligé de se précipiter là. On a jusqu'à mi-novembre, on va dire, pour se faire vacciner.
Nous avons un mois et demi pour pouvoir organiser la vaccination dans sa famille. N'oubliez pas les enfants, n'oubliez pas les personnes âgées. N'oubliez pas de poser les questions dans l'ensemble des secteurs de votre famille. Parce que souvent, il y a l'oncle, il y a la grande-tante qui est totalement oubliée et seule, isolée. Donc vraiment, soyez cette année, il faut être vigilant. Cela dit, ça veut dire que toutes les campagnes, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent a fonctionné, parce que notre ami pharmacien qui vient de nous expliquer les choses démontre que finalement les personnes ont extrêmement réagi. Et d'ailleurs, à titre personnel, François, vous allez sourire, mais j'ai essayé d'acheter un vaccin cette semaine à Vincennes. Il n'y en avait plus. C'était déjà mercredi. Voilà.
Merci Thomas pour ce témoignage et tous ces conseils. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
8h21 sur RMC. Dernière petite question concernant ce vaccin. Si je me fais vacciner contre la grippe, Christian, est-ce que je suis mieux protégé contre le Covid ?
Vous serez protégé sur le plan immunitaire contre le vaccin, contre le virus de la grippe. Vous ne serez pas préparé pour avoir la Covid. Cela dit, comme l'a dit très justement...
Préparer, c'est-à-dire pour...
C'est-à-dire, au fond, ce que je veux dire dans cette nuance... Préparer. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous avons des masques, ce que nous n'avons pas eu les années précédentes. Aujourd'hui, nous nous lavons les mains et nous avons du gel hydroalcoolique en quantité considérable. Donc, nous avons finalement la capacité d'éloigner toute forme de virus autour de nous. Donc déjà, c'est une préparation. Mm-hmm. Donc, finalement, on aura, à mon avis, moins de propension à faire la grippe. Et d'ailleurs, on l'a vu en Asie cette année, il y a eu moins de grippe que d'autres années. Mais on ne peut pas savoir à l'avance. Sur le plan physiologique, le fait de se vacciner contre la grippe, et là, je réponds à votre question, ne prépare pas, sur le plan immunitaire, une lutte contre la Covid. Ça empêche simplement une complication. D'accord. Il ne faudrait pas que vous ayez un début de grippe. Là-dessus, dans cette faiblesse, je dirais, immunitaire provoquée par la grippe, vous ayez la Covid qui arrive et qui vous met en insuffisance respiratoire avec une exacerbation de la fonction immunitaire et inflammatoire qui provoque la détresse respiratoire et la mort.
Très bien, enfin la mort, évidemment.
Ah oui, non, mais pour la mort,
extrêmes,
ceux
bien
qui
évidemment,
sont, c'est-à-dire 0,3% de la population subit de très graves séquelles et la réanimation. Sachez tout de même, mesdames et messieurs, que 99,7% s'en sortent parfaitement bien.
Oui, oui,
et
oui.
J'ai eu autour de moi des gens qui ont été positifs et qui n'ont eu aucun signe de la Covid. Donc c'est très compliqué, d'où l'intérêt d'être prudent pour les personnes fragiles.
Valentin nous demande quels sont les effets secondaires du vaccin contre la grippe.
Oh, quasiment rien. Quelques petites douleurs musculaires, voilà.
Quelques petites crises cardiaques.
Rien. Franchement, rien. Vraiment rien. C'est rien. D'autant que maintenant, les vaccins contre la grippe...
On se fait vacciner, qu'est-ce qu'on a? On est un peu fatigué, on peut avoir une petite fièvre.
Vraiment peu de choses, sachant que les vaccins contre la grippe, aujourd'hui, quand on étudie et quand on a l'honneur d'être chez Pasteur pour voir comment c'est préparé, c'est par rapport aux années 60, c'est devenu une magnifique structure moléculaire qui vous permet de travailler sur quelques gènes très fins. Donc, au fond, c'est extrêmement bien ciblé. Les vaccins deviennent de plus en plus techniques.
Et c'est inoffensif.
Un grand bravo.
C'est inoffensif.
Absolument inoffensif.
Allez, Christian, on revient dans un instant. Autre sujet, le café. Allez, on va s'intéresser au café, aux bienfaits du café. Comment le consommer, ce café, et quel café choisir. Ça sera notre dossier un petit peu plus léger qui va nous faire du bien dans un instant, parce que peut-être êtes-vous en train justement de siroter votre café. On en parle avec Christian.
Et ça fait Zumba, café, oh, café, oh, carnaval.
Tu as fait le café?
Cette fois, je l'ai fait.
8h-9h.
Il est bon. Ma mère aussi faisait le café comme ça. Très chaud, très fort. Et très bon.
Votre forme. Arrêtez-moi là. J'ai envie d'un café.
Toujours pas de petit café? Un petit café dans sa culotte?
François Sorel.
T'as pas remarqué, dès que t'arrives chez quelqu'un qui a une machine à expresso, t'es à peine arrivé, veut absolument te faire un café?
Christian Vecchia.
Je lui dis non, merci, c'est bon, j'en ai déjà bu. Il fait, je fais du déca, c'est un peu du déca.
Heure 30. Alors, peut-être êtes-vous en train de le savourer avec du lait, on va dire court, ristretto ou long, enfin bref.
François, il faut quand même avouer qu'un bon café le matin,
mais attendez,
c'est un grand bonheur.
Mais franchement, c'est vraiment le démarrage
et
de la journée
pense,
pour beaucoup d'entre nous.
Je pense à mon épouse qui boit des litres de café et je salue mon beau-père qui adore le café, mais c'est vrai, un vrai plaisir. Et parler à des personnes qui connaissent ce café, c'est comme parler à des personnes qui aiment le chocolat, qui connaissent le chocolat. C'est un vrai plaisir de la vie. Alors pour ceux qui aiment le thé, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre émission sur le thé, il n'y a pas de problème, on ne va pas faire de jaloux. Mais là, le café, c'est exceptionnel. Et il faut dire les choses, c'est que... Dans l'eau du robinet, que je déteste, parce que l'eau du robinet ne répond plus aux besoins de l'humain, ni même de l'animal, ni même des plantes, tellement, je dirais, les structures de l'État sont dépassées sur ce système, eh bien, dans les eaux de la Seine, eh bien, il y a de la caféine, tellement on boit du café.
Ah oui, d'accord.
Et donc, ça veut dire clairement...
Est-ce qu'on trouve dans les eaux usées?
Dans les eaux usées, la traçabilité du café se va jusque dans les eaux usées, tellement l'humain boit du café. Alors, il y a aussi du tétrahydrocannabinol, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Alors, évidemment, le café...
Quoique les deux, c'est explosif.
C'est extrêmement compliqué. J'ai commencé la filière café, c'était en 1989, un peu avant. Et là, j'ai compris vraiment qu'on était sur une des filières les plus compliquées du monde. La filière la plus courte, c'est l'œuf, puisque quand une poule mange, eh bien concrètement, 5 semaines après, l'œuf exprime ce qu'elle a mangé. Et le café, c'est compliqué, parce qu'il faut faire le café, il faut transporter le café, il faut... entre-temps torréfier le café, il faut les vendeurs de café doivent choisir le café.
Important.
Comment choisir un cépage dans un vin? C'est très 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 compliqué, c'est un grand métier. Et ce métier de café, eh bien nous allons avoir un invité qui va nous expliquer tout cela.
Alors d'abord, j'aimerais que vous nous disiez quels sont les atouts nutritionnels du café, Christian.
Les atouts nutritionnels du café sont fantastiques. C'est que la caféine est un stimulant de la fonction neuronale et le café est le premier dopant de la vie. Vous avez déjà pris, mesdames et messieurs, un café à jeun. Il vous met en lévitation magnétique et un expresso, c'est 70 mg à 100 mg de caféine. Un expresso, ça vous porte, ça vous stimule les neurones, ça augmente la vascularisation neuronale.
C'est comme si on tournait le bouton.
Ça vous dégranule les neurones, ça vous ouvre les yeux, tout d'un coup, vous êtes réveillé, ça a l'effet du cortisol, ça a l'effet de la corticothérapie naturelle que vous avez tous les matins quand vous vous réveillez.
Est-ce que, au-delà de l'aspect excitant que vous venez de nous expliquer, le café a d'autres vertus ?
Alors, le café a la vertu, ce qui est remarquable, et là je rends hommage à Benoît qui a préparé tous les dossiers, et nous préparons aujourd'hui un ouvrage sur le café d'une façon extrêmement sérieuse, dans un ouvrage qui sera, je dirais, moteur dans ce domaine. Eh bien, sachez un point, c'est que le café contient des phénols, des molécules qui viennent vous préserver contre les maladies dégénératives. Alors attention, le café n'est pas là pour empêcher le cancer ou empêcher telle ou telle maladie, mais le café, d'une façon générale, grâce à ces molécules, vous permet finalement de temporiser l'usure quotidienne. Car vous savez, François, que les cellules sont faites d'acides gras, c'est-à-dire les membranes des cellules, ce sont des acides gras. Mm-hmm. Ces acides gras sont portés sur l'eau intracellulaire. Nous sommes à un bain d'eau et dessus, il y a de l'huile. Il y a de l'oxygène qui arrive dans l'eau, car nous sommes aussi un bain d'oxygène. Et concrètement, tout ça fait des oxydations. Eh bien, le café apporte, entre autres, des phénols qui empêchent ces oxydations des membranes cellulaires. Donc c'est très important, c'est un puissant protecteur cellulaire à condition de choisir le bon café.
Donc, pas de souci à boire du café.
Non, pas de souci.
Quelle dose ? Combien de café
le seul
dois-je
souci,
boire ?
François, c'est l'excès de dose. Au-delà de 4 à 5 tasses de café par jour, particulièrement à jeun, c'est fortement déconseillé parce que ça provoque au niveau végétatif, au niveau du système nerveux végétatif, une exacerbation de certaines fonctions neurologiques qui provoque par exemple une accélération du rythme cardiaque, une tendance à la montée de la tension artérielle. J'ai pas dit à l'hypertension, à la montée de la tension artérielle. Une tendance à la diurèse, car quand vous buvez du thé, et du café, et le thé on le verra la prochaine fois, mais quand vous buvez du café, eh bien vous augmentez votre diurèse parce que la fonction rénale est accélérée. Donc vous allez uriner plus fréquemment. Donc ce qui veut dire clairement que le café augmente, en excès, augmente certaines fonctions végétatives.
D'accord. Ça active un petit peu l'organisme.
Ça active et l'organisme d'une façon générale.
Autant à faible dose, c'est plutôt bien, mais si on en abuse, évidemment, ça
le
va.
Top de la dose du café, c'est un café le matin, et un café immédiatement après le repas, après le déjeuner. D'accord. Et ça, c'est exceptionnel. Au-delà de 16 heures, je déconseillerais le café.
Ça peut empêcher de dormir,
Ça peut empêcher de dormir, car dans cette deuxième phase de la vie diurne, de la journée, eh bien, vous avez une petite sécrétion de cortisol pour vous faire tenir jusqu'à 20h, 22h. Et le café, lui, masquerait l'arrivée de ce cortisol et vous ferait prolonger jusqu'à 1h du matin. D'où les gens disent, ah ben j'ai encore bu mon café à 17h, je ne dors pas. Donc l'idée est de quand même arrêter après 15h. Est-ce que nous avons fait tous les deux, François, aujourd'hui, pour discuter entre amis et d'une façon agréable, nous sommes montés au troisième pour aller boire un café. C'est pas forcément conseillé, parce que c'est un café qu'on aurait dû prendre avec un petit croissant ou avec un petit peu de pain pour être amélioré. Donc le café à jeun, c'est pas forcément bien. Et pour les femmes enceintes, c'est le seul point que je dirais avant notre invité, eh bien, femmes enceintes, pas de café du tout. Femme enceinte, pas de tabac du tout. Femme enceinte, pas d'alcool du tout. Et le café, c'est comme l'alcool pour une femme enceinte, parce que ça perturbe la prolifération des neurones chez l'enfant.
Ah bon ?
Ah oui, c'est un élément majeur à intégrer. Et ça, il faut le dire.
Pas de café quand on est enceinte.
Pas de café quand on est enceinte. Et pas de café quand on a plus de 70 ans. Alors là, ça fait sourire mon ami Olivier Rachinel, qui est un grand sportif. C'est que parce que dans la mesure où ça exacerbe les fonctions neurologiques, végétatives, eh bien, il y a des personnes de plus de 70 ans qui ne se rendent pas compte, mais ils prennent 1, 2, 3, 4, 5 cafés. Et alors, un café, oui, sans problème.
Ah ben voilà. Deux cafés, parce que vous avez plus de café à partir de 70 ans.
Le problème, c'est que souvent, les gens ne se rendent plus compte.
Oui, mais s'ils comptabilisent, ils peuvent boire un ou deux cafés par jour.
Il faut maîtriser son café. Faut le maîtriser.
On a pas mal de questions sur Direct Studio, Christian. On en profite, parce que c'est un sujet qui, bien sûr, vous intéresse. On a Gauthier qui nous dit « Mon père boit, depuis 40 ans, tous les matins, un grand bol de café au lait. Ce mélange est-il réellement dangereux pour l'organisme ? »
Alors, le mélange café au lait, c'est que le café, de par son acidité, provoque des micelles au niveau du gras du lait, et ces micelles arrivées au niveau gastrique ont du mal à être digérées. Et ce qui aurait tendance, si vous êtes à l'arrière d'un bus au cours de colonies de vacances, d'éjecter le café au lait, c'est cette idée populaire qui fait que le café au lait est moins digeste. Oui, ça rend le café au lait moins digeste, c'est tout.
Bon, d'accord. Donc pas de souci.
Pas de souci.
Enfin, voilà. C'est après, il y a des gens qui doivent le tolérer plus que d'autres. Un café. Alors, il y a Fabienne qui me dit, j'adore le café, mais si j'en bois le matin, il a un effet immédiat au niveau du transit. Est-ce oui, que cela oui, vient de la qualité du café
ou de sa variété? Ça vient de son hyperesthésie à être sensible. Nous sommes avec une auditrice sensible.
D'accord. Tout simplement. Mais ça, c'est pas plus mal c'est finalement.
Une façon de faire une exonération matinale conduite.
Le décaféiné, Christian.
Le décaféiné maintenant est bien réalisé. On va peut-être poser la question à notre invité qui lui est un spécialiste de la production du café. Et le décaféiné pour moi c'est bien pour des personnes comme ma tendre épouse qui boit des litres de café et qui a compris il y a quelques années que de toute façon elle adorait le goût du café, que maintenant on faisait des décaféinés de très grande qualité et que par conséquent il n'y a pas de problème pour le déca pour les grands buveurs de café. Mais entre un grand buveur de café ou un petit buveur de café, le petit buveur de café, bah, qu'il prenne son café.
Une femme enceinte peut-elle boire du décaféiné?
Oui, mais le problème c'est qu'il faut là être conduit avec un vrai décaféiné. Un vrai décaféiné qu'elle maîtrise elle-même, qu'elle ne demande pas un déca dans un café, parce que je n'ai pas la traçabilité.
Mais si on achète du décaféiné,
oui, très bien,
dans le commerce,
très,
etc.,
très bien,
c'est très décaféiné,
bien. Oui,
on est d'accord. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Christian, on va marquer une pause, mais auparavant, petite question. Comment dois-je consommer le café? Parce qu'il y a les expressos. D'accord. Il y a le café filtre.
Eh bien, ça, c'est une bonne question qu'on va poser à notre invité.
On en parle avec notre invité.
C'est le grand spécialiste.
Dans un instant. Mais vous nous
j'aurai
aussi.
J'aurai mon avis là-dessus.
Mais voilà. Quelles sont les qualités nutritionnelles du meilleur café?
La différence nutritionnelle d'un café en fonction du mode de préparation. Tout change.
C'est-à-dire que si je bois un expresso ou un café filtre.
Ça n'a rien à voir.
Au niveau nutritionnel.
Deux cafés différents.
D'accord. Ben, on en parle dans un instant. C'est intéressant. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Écoutez, voilà, juste le temps de boire un café et on est de retour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme. RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
8h44, c'est RMC. C'est le week-end des experts, c'est la forme, la santé avec Christian Recchia et on évoque le café ce matin avec énormément de questions concernant le café. Par exemple, nous avons Chantal qui nous dit, est-ce que le café est-il contre-indiqué contre l'ostéoporose, Christian?
Alors, il y a effectivement des théories sur ce sujet. Moi, j'aurais tendance à dire que comme le café, et vous m'avez posé une question remarquable pour un parent qui me dit, j'ai un enfant de 12 ans, a-t-il l'autorisation
de boire du café? C'est la question de David.
C'est une question
de
David.
À partir de quel âge un enfant peut-il boire du café?
À partir de l'âge de 20 ans. Parce que jusque-là, comme il y a déjà un problème, je dirais, de stabilisation neurologique et végétative, eh bien, plus tard, on commence ce toxique, parce que c'est quand même un stimulant. J'ai dit toxique, pardon. Ce stimulant, eh bien, plus tard, ça sera, résolu. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, quoi. Pas de café, pas de stimulant, pas de thé. Restons à des choses neutres.
Mais ça tombe bien parce qu'en général.
C'est dans un monde idéal, hein, mesdames et messieurs. Hein.
En général, c'est plutôt les adultes qui apprécient le café.
Voilà,
les enfants et les ados n'aiment pas le café la plupart du temps. C'est assez étonnant. Hein. C'est quand on prend de l'âge qu'on apprécie par exemple le café et le vin aussi.
Absolument.
C'est comme ça.
Et donc là, nous avons notre invité.
Oui. Hippolyte Courty est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur, bonjour Christian.
Très heureux, et là évidemment la question de François est fondatrice. Comment comprendre pourquoi les cafés, quand on fait du café filtre, quand on fait du café turc, quand on fait du café expresso, quand on fait ceci ou cela comme technique de café, pourquoi les cafés sont différents, Hippolyte? Alors Hippolyte Courty, vous êtes maître dans l'art du café, comme il y a des gens qui sont maîtres dans l'art du chocolat sur le plan mondial, et bien vous êtes cet alter ego, et je suis très heureux de vous rendre hommage, parce que vous faites beaucoup pour le café et beaucoup pour la santé publique.
Eh bien, merci beaucoup Christian. Alors effectivement, à la Voix Café, on essaye justement de diffuser la bonne parole et puis les meilleurs cafés pour la meilleure santé. Alors, évidemment.
Dans ce cadre-là, expliquez-nous pourquoi il y a différents types de nutritionnels de café par rapport au type de préparation.
Alors, la réponse est assez simple. La grande diversité du café, c'est sa grande force, c'est-à-dire qu'on peut préparer le café comme on veut. Il y a à peu près une dizaine de préparations différentes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les éléments, on part d'un élément solide, donc qui est le café en grain. On ne va pas parler de monodose et de choses transformées ici. Si on prend le produit brut, le produit pur, c'est le grain. Et en fait, ce que l'on boit, c'est un liquide. Et donc, tout se joue dans la transformation du solide en liquide. Et on va travailler comment ? On va travailler avec une eau qui va prendre, justement, qui va intégrer, porter les éléments nutritionnels que l'on appelle solubles, justement, dans du grain du café. Et en fonction de la préparation, eh bien, on va pouvoir, l'eau va pouvoir se charger de plus ou moins, justement, d'ingrédients solubles.
Oui, allez-y.
Un espresso qui a une grande viscosité, qui est très chargé, on dit que c'est pratiquement 20%, vous voyez, de matière soluble dans l'espresso. Donc c'est pour ça qu'il est plus épais, qu'il est plus coloré notamment, qu'il y a de la créma, il y a plus d'huile, etc.
Mais c'est un concentré, en quelque sorte.
C'est un concentré, voilà. Enfin, en tout cas, il est plus concentré qu'un filtre, par exemple, ou qu'une infusion. Alors il faut savoir que les professionnels boivent davantage en infusion, parce qu'on a une lecture plus ample, plus riche du café. On arrive mieux à le lire, à intégrer justement, à rentrer dans ses nuances aromatiques et toute sa richesse aromatique.
Quand vous parlez d'infusion, c'est le café filtre ou c'est autre chose encore ?
Alors non, l'infusion, donc il y a ce qu'on appelle la lifixation, c'est-à-dire ça c'est le filtre, c'est quand l'eau passe à travers le café. Vous voyez, et vous avez ce qu'on appelle le café filtre, la Chemex, vous avez pas mal de préparations qui suivent ce chemin. Et puis après l'infusion, c'est la French press, ce qu'on appelle la French press partout dans le monde, et la cafetière piston en France, où on laisse simplement le café, par exemple pendant 3-4 minutes, dans de l'eau chaude, et ensuite on filtre.
Ah oui.
Et là, c'est très important, parce que ce que vient de dire notre spécialiste, c'est capital. Quand vous avez un espresso, vous avez du gras, donc les phénols, donc vous avez de l'amertume, donc vous avez du goût qui masque le café simple qui coule avec de l'eau. Et là, concrètement, là, vous avez un espresso riche de parfums et d'antioxydants bons pour la santé.
Mais quel est le meilleur café pour la santé,
Christian ? Et donc là, concrètement, je dirais qu'il y a finalement un rapport phénol sur caféine meilleur pour la santé dans un expresso. Et attention au café juteux. Ça, c'est Christian Requia qui parle, hein, pardonnez-moi, Hippolyte. Hein. Un café juteux, le jus de chaussette que je buvais à l'armée,
voilà,
à la force d'action rapide pour nous réveiller le matin à 4 heures. Et concrètement, ce café filtre, banal, est hyper riche en caféine et il vous énerve grave. D'accord. Donc, ce qui veut dire que je dirais que l'expresso fait par une machine intelligente. Et je dirais, Hippolyte, qu'il y a sans doute des machines à inventer pour doser les phénols et non pas la caféine. Ça, c'est le prochain métier des fabricants de machines à café.
C'est effectivement une super idée. Alors, pour revenir au filtre, justement, on a pratiquement simplement 2% de matière soluble dans le café. Donc, c'est effectivement très léger. On a beaucoup d'arômes, peu d'intensité, et puis en termes de, pour parler de la caféine en fait elle est simplement, elle est banalement, on va dire, hydrosoluble. Donc elle va, plus vous allez laisser le café, vos grains de café, la mouture dans de l'eau, et plus elle va avoir tendance à s'extraire. Mais là, attention, il y a plein de nuances, parce que dans l'espresso, on va faire l'espresso avec des espèces, et notamment ce qu'on appelle le Robusta, nous on l'appelle le Canephora, qui sont beaucoup plus caféinés que l'Arabica. Donc, en fonction de la variété que vous prenez, eh bien, vous pouvez avoir plus ou moins de caféine, justement, dans votre espresso ou dans votre filtre, et atteindre des doses qui sont supérieures à une dose, à une canette, par exemple, de soda. Je renvoie à notre blog où, justement, il y a beaucoup d'informations, justement, sur ces questions critiques de caféine et de préparation.
On a Joël au 32-16 avec nous. Bonjour, Joël. Bonjour, est-ce que Joël est là ? Joël une fois, deux fois. Joël n'est pas là, c'est pas grave. On va poursuivre.
Alors, le ristretto, Hippolyte, le ristretto. Oui. Expliquez-nous ce concept de ces Italiens qui vous servent sur la place Saint-Marc un ristretto à 12 euros.
Alors, si c'est sur la place Saint-Marc, le prix s'explique parce que c'est sur la place Saint-Marc, en fait, et n'a rien à voir avec le café.
Voilà.
Ce qu'il faut comprendre sur l'Italie, qui est un peu le parangon du café, enfin de la qualité du café, en tout cas de l'espresso pour les Français, et ce qui n'est pas vrai pour les amateurs de café, mais c'est un autre débat. En fait, en Italie, vous êtes à Naples, vous avez un 100% Robusta. Vous êtes à Venise, vous avez un 100% Arabica. Donc, on a deux fois moins de caféine à Venise que l'on a à Naples.
D'accord.
Voilà. Et donc, comment on le sert ? Eh ben, plus il va être robusté, plus il va être amer et plus il va être puissant et fort. Vous savez, on le voit à la créma qui est pratiquement solide, en fait, quand on n'a que du Robusta.
D'accord.
Et Beaucoup d'industriels en mettent. Alors les artisans comme nous, on met pas du tout de Robusta évidemment dedans. On fait du 100% Arabica. Et le ristretto, à quoi il sert en fait? Quand on fait un espresso, on va parler de ratio. On va dire, ok, je vais mettre par exemple 20 grammes de café dans mon portefeuille, dans ma machine, et combien je vais en ressortir dans la tasse. Mmh. Donc on dit que c'est un ratio de 1 pour 2, de 1 pour 3, etc. L'espresso normal, on va dire lambda, standard, c'est un ratio de 1 pour 2. Donc je mets 10 grammes de café dans ma machine et je ressors avec une tasse de 20 centilitres, d'accord, de 20 grammes. Et en fait, le ristretto, bah, c'est deux fois moins. Et en fait, ça permet effectivement de concentrer davantage le café. Et si vous avez des très bons cafés, en fait, vous n'aurez pas d'amertume. En revanche, si vous avez des cafés de basse qualité, c'est-à-dire courants, vous allez avoir beaucoup d'amertume. Et dans ce cas-là, vous allez sucrer comme on fait à Naples. Vous voyez? En disant, la vie est déjà tellement amère, pourquoi le café devrait l'être aussi?
Merci beaucoup Hippolyte Courty pour toutes ces précisions. Super, on voit génial. Que vous en parlez avec passion.
Absolument.
On avait la question de Joël, malheureusement on n'a pas le temps de l'entendre, mais elle nous demandait, elle consomme du café chicorée et elle aimerait avoir votre avis sur ça.
C'est encore un autre produit, c'est pas du café, c'est de la chicorée. Donc là il y a un abus de langage et là c'est remarquable François. Mmh. C'est remarquable.
Bien, aussi.
Oui, c'est très très bien. Et là on apporte, et Patrick Mulan n'étant pas là, je lui rends hommage, et le chicorée apporte des phénols différents et là c'est une plante comme la verveine, c'est une plante comme la tilleule.
D'accord.
C'est chicorée qui apporte à peu près le même goût de café avec des éléments. On devrait faire une émission complète sur le chicorée.
Mais déjà, vous vous rendez compte, là on a terminé, on a encore
une heure d'émission
sur le café. Absolument. Et en tout cas c'est un sujet qui vous intéresse puisque vous êtes très nombreux à nous poser des questions. Christian, merci beaucoup. Voilà, le café.
À la semaine prochaine.
Et on évoquera le thé, tiens, hein, un de ces jours.
Absolument, le thé, très bonne idée.
Pourquoi pas. Et dans un instant, c'est Raphaël Grabli qui me rejoint. Bonjour Raphaël.
Salut François, salut Christian.
Plutôt thé ou café Raphaël, tiens?
Alors moi je suis d'abord un thé et ensuite un café.
D'abord, tous les matins,
tous
d'abord
les matins,
le thé.
Un thé et ensuite un expresso.
Et après un expresso. Exactement. Eh oui, pourquoi pas. Toi. C'est un bon mélange, c'est un bon mix, Christian.
C'est remarquable. Non, mais on a Raphaël, il est très fin. On a un grand
Raphaël,
monsieur.
Mais Raphaël est très fin.
Il prend vraiment l'idéal pour rester en vie jusqu'à 102
ans. Mais en France, on a je préviens
fait encore son épouse, cap. Je préviens son épouse qu'elle risque de l'avoir longtemps à côté de l'aile.
Bon, ben ça, c'est plutôt positif.
Je suis pressé que nos bistrots et nos cafetiers fassent ils s'améliorent beaucoup. Hein.
C'est
bien meilleur qu'avant le café.
Enfin, quand ils sont ouverts, hein. C'est surtout
quand
ça le problème.
Ouverts, oui, on
Raphaël, on se retrouve dans un instant. Une heure dédiée à la vie numérique et on va parler smartphone et nouveaux smartphones.
Oui, alors. Forcément, l'événement Apple, mais on ne va pas parler que d'Apple.
Non.
Il y a aussi des solides concurrents et on va expliquer à nos auditeurs quelles sont les forces en présence un peu. Et si vous avez des questions, demandez-nous. Si vous cherchez un smartphone, si vous cherchez à acheter
c'est
un smartphone.
C'est le moment ou jamais. Hein.
C'est le moment.
Allez-y, on se retrouve après la météo et les infos de 9h. À tout de suite.